Clérambeau, troisième partie. À peu près dans le même temps, Clérambeau reçut la visite d'un jeune permissionnaire, ami de la famille. Ingénieur, fils d'ingénieur, Daniel Favre, dont la vive intelligence n'était pas bornée par son métier, s'était depuis longtemps épris de Clérambeau. Les puissantes envolées de la science moderne ont singulièrement rapproché son domaine de celui de la poésie. Elle est devenue elle-même le plus grand des poèmes. Daniel était un lecteur enthousiaste de Clérambeau. Ils avaient échangé d'affectueuses lettres, et le jeune homme, dont la famille était en relation avec les Clérambeau, venait souvent chez eux, peut-être pas uniquement pour la satisfaction d'y rencontrer le poète. Les visites de cet aimable garçon, âgé d'une trentaine d'années, grand, bien découplé, au trait fort, au sourire timide, avec des yeux très clairs dans un visage hâlé, était bien accueilli, et Clérambeau n'était pas seul à y trouver plaisir. Il eût été facile à Daniel de se faire affecter à un service de l'arrière, dans une usine métallurgique. Mais il avait demandé à ne pas quitter son poste périlleux au front. Il y avait rapidement conquis le grade de lieutenant. Il profita de sa permission pour venir voir Clérambeau. Celui-ci était seul. Sa femme et sa fille étaient sorties. Il reçut avec joie le jeune ami, mais Daniel paraissait gêné. Et, après avoir répondu tant bien que mal aux questions de Clérambeau, il aborda brusquement le sujet qui lui tenait à cœur. Il dit qu'il avait entendu parler, au front, des articles de Clérambeau, et il était troublé. On disait, on prétendait, enfin, on était sévère. Il savait que c'était injuste, mais il venait et il saisit la main de Clérambeau avec une chaleureuse timidité. Il venait le supplier de ne pas se séparer de ceux qu'il aimait. Il lui rappela la piété qu'inspirait le poète qui avait célébré la terre française et la grandeur intime de la race. « Restez, restez avec nous à cette heure d'épreuve. »« Jamais je n'ai été davantage avec vous, » répondit Clérambeau. Et il demanda. « Cher ami, vous dites qu'on attaquait ce que j'ai écrit. Vous-même, qu'en pensez-vous ?»« Je ne l'ai pas lu, » dit Daniel. « Je n'ai pas voulu le lire. J'ai craint d'être attristé dans mon affection pour vous. » ou troublé dans l'accomplissement de mon devoir. Vous n'avez pas beaucoup de confiance en vous pour craindre de voir ébranler vos convictions par la lecture de quelques lignes. Je suis sûr de mes convictions, fit Daniel un peu piqué, mais il est certains sujets qu'il est préférable de ne pas discuter. Voilà, dit Clérambeau, une parole que je n'attendais pas d'un homme de science. Est-ce que la vérité a rien à perdre à être discutée? La vérité, non, mais l'amour de la patrie. Mon cher Daniel, vous êtes plus téméraire que moi. Je n'oppose pas la vérité à l'amour de la patrie. Je tâche de les mettre d'accord. Daniel trancha. On ne discute pas la patrie. C'est donc, dit Clérambeau, un article de foi? « Je ne crois pas aux religions, » protesta Daniel. « Je ne crois à aucune. C'est justement pour cela. Que resterait-il sur terre s'il n'y avait pas la patrie ?»« Je pense qu'il y a sur terre beaucoup de belles et bonnes choses. La patrie en est une. Je l'aime, moi aussi. Je ne discute pas l'amour, mais la façon d'aimer. »« Il n'y en a qu'une, » dit Daniel. « Et c'est obéir. » L'amour aux yeux fermés, oui, le symbole antique, je voulais les lui ouvrir. Non, laissez-nous, la tâche est déjà assez dure. Ne venez pas nous la rendre encore plus cruelle. » En quelques phrases sobres, hachées, frémissantes, Daniel évoqua les images terribles des semaines qu'il venait de vivre dans la tranchée, le dégoût et l'horreur de ce qu'il avait souffert, vu souffrir, fait souffrir. « Mais mon cher garçon, dit Clérambeau, puisque vous voyez cette ignominie, pourquoi ne pas l'empêcher ? Parce que c'est impossible. Pour le savoir, il faudrait d'abord essayer. La loi de la nature est la lutte des êtres, détruire ou être détruit. C'est ainsi, c'est ainsi. Et cela ne changera jamais ? Non, dit Daniel, avec un accent de douleur obstinée. C'est la loi. Il est des hommes de science à qui la science cache si bien la réalité qu'elle en sert qu'ils ne voient plus sous le filet la réalité qui s'échappe. Ils embrassent tout le champ que la science a découvert, mais jugeraient impossible et même ridicule de l'élargir au-delà des limites qu'une fois la raison a tracées. Ils ne croient à un progrès qu'enchaîné à l'intérieur de l'enceinte. Clérambeau connaissait trop bien le sourire goguenard avec lequel des savants éminents, sortis des écoles officielles, écartent, sans autre examen, les suggestions des inventeurs. Une certaine forme de la science s'allie parfaitement à la docilité. Du moins, Daniel n'apportait à la sienne aucune ironie. C'était plutôt l'expression d'une tristesse stoïque et butée. Il ne manquait point de hardiesse d'esprit, mais dans les choses abstraites, mis en face de la vie, il était un mélange, ou plus exactement, une succession de timidité et de raideur, de modestie qui doute et de dureté de conviction. Un homme, comme beaucoup d'hommes, complexe, contradictoire, fait de pièces et de morceaux. Seulement, chez un intellectuel, surtout chez un homme de science, les pièces se juxtaposent et l'on voit les sutures. Cependant, dit Clérambeau, achevant tout haut les réflexions qu'il venait de faire en silence, les données de la science elles-mêmes se transforment. Les conceptions de la chimie, de la physique, subissent depuis 20 ans une crise de renouvellement qui les bouleverse en les fécondant. Et les prétendues lois qui régissent la société humaine, ou plutôt le brigandage chronique des nations, ne pourraient être changées. N'y a-t-il point place dans votre esprit pour l'espoir d'un avenir plus haut ? Nous ne pourrions pas combattre, dit Daniel, si nous n'avions l'espoir d'établir un ordre plus juste et plus humain. Beaucoup de mes compagnons espèrent par cette guerre mettre fin à la guerre. Je n'ai pas confiance et je n'en demande pas tant. Mais je sais avec certitude que notre France est en danger et que si elle était vaincue, sa défaite serait celle de l'humanité. La défaite de chaque peuple est celle de l'humanité, car tous sont nécessaires. L'union de tous les peuples serait la seule vraie victoire. Tout autre ruine les vainqueurs autant que les vaincus. Chaque jour de cette guerre qui se prolonge fait couler le sang précieux de la France et elle risque d'en rester épuisée pour jamais. Daniel arrêta ses paroles d'un geste irrité et douloureux. Oui, il le savait. Qui le savait mieux que lui ? Que la France mourait, chaque jour, de son effort héroïque, que l'élite de la jeunesse, la force, l'intelligence, la sève vitale de la race s'en allait par torrents, et avec elle, la richesse, le travail, le crédit du peuple de France. La France, saignée aux 4 membres, suivait la route par où passa l'Espagne d'il y a 4 siècles. La route qui conduit au désert de l'Escurial. Mais qu'on ne lui parlât pas de la possibilité d'une paix qui mit fin au supplice avant l'écrasement total de l'adversaire. Il n'était pas permis de répondre aux avances que faisait alors l'Allemagne, même pour les discuter. Il n'était même pas permis d'en parler. Et, comme les politiciens, les généraux, les journalistes et les millions de pauvres bêtes qui répètent à tue-tête la leçon qu'on leur souffle, Daniel criait « jusqu'au dernier ». Clérambault regardait avec une affectueuse pitié ce brave garçon timide et héroïque, qui s'effarait à l'idée de discuter les dogmes dont il était victime. Son esprit scientifique n'avait-il pas une révolte devant le non-sens de ce jeu sanglant, dont la mort pour la France, comme pour l'Allemagne, et peut-être plus que pour l'Allemagne, était l'enjeu? Si, il se révoltait, mais il se raidissait pour ne pas se l'avouer. Daniel adjura de nouveau Clérambault. Oui, ses pensées étaient peut-être justes, vraies, mais pas maintenant. Elles ne sont pas opportunes. Dans 20 ou 50 ans, laissez-nous d'abord accomplir notre tâche, vaincre, fonder la liberté du monde, la fraternité des hommes, par la victoire de la France. Ah, le pauvre Daniel, ne prévoit-il donc pas, dans le meilleur des cas, les excès dont se souillera fatalement cette victoire, et que ce sera au tour du vaincu de reprendre la volonté maniaque de revanche et de juste victoire? Chaque nation veut la fin des guerres par sa propre victoire. Et de victoire en victoire, l'humanité s'écroule dans la défaite. Daniel se leva pour prendre congé. Serrant les mains de Clérambault, il lui rappela avec émotion ses poèmes d'autrefois. Où, redisant la parole héroïque de Beethoven, Clérambault exaltait la souffrance féconde. Durch Leiden Freude. Hélas, hélas, comme ils comprennent. Nous chantons la souffrance pour nous en délivrer, mais eux, ils s'en éprennent. Et voici que notre chant de délivrance devient pour les autres hommes un chant d'oppression. Clérambault ne répondit pas. Il aimait ce cher garçon. Ces pauvres gens qui se sacrifient savent bien qu'ils n'ont rien à gagner à la guerre. Et plus on leur demande de sacrifices, plus ils croient. Béni soit-il. Mais si du moins ils voulaient bien ne pas sacrifier avec eux l'humanité entière. Clérambault reconduisait Daniel jusqu'à la porte de l'appartement lorsque Rosine entra. Elle eut, en voyant le visiteur, un mouvement de surprise ravie. Le visage de Daniel s'éclaira aussi, et Clérambault remarqua l'animation joyeuse des deux jeunes gens. Rosine invita Daniel à revenir sur ses pas pour reprendre l'entretien. Daniel fit mine de rentrer. Hésita, refusa de se rasseoir et, prenant une expression contrainte, il allégua un vague prétexte qui l'obligeait à partir. Clérambault, lisant dans le cœur de sa fille, insista amicalement pour qu'il revînt du moins une fois avant la fin de sa permission. Daniel, gêné, dit non d'abord, puis oui, sans prendre d'engagement ferme. Et finalement, pressé par Clérambault, il fixa un jour et prit congé d'une façon un peu froide. Clérambault rentra dans son cabinet et s'assit. Rosine restait debout, immobile, absorbée, l'air peiné. Clérambault lui sourit. Elle vint l'embrasser. Le jour fixé passa. Daniel ne revint pas. On l'attendit encore le lendemain et le surlendemain. Il était reparti pour le front. À l'instigation de Clérambault, sa femme alla, peu après, avec Rosine, faire visite aux parents de Daniel. Elles furent reçues avec une froideur glaciale, presque blessante. Madame Clérambault revint en déclarant qu'elle ne reverrait plus de sa vie ces malotrus. Rosine avait grand-peine à ne pas montrer ses larmes. Dans la semaine qui suivit, arriva une lettre de Daniel à Clérambault. Un peu honteux de son attitude et de celle de ses parents, il cherchait moins à l'excuser qu'à l'expliquer. Il faisait une allusion discrète à l'espoir qu'il avait conçu de devenir, un jour, plus proche de Clérambault que par les liens de l'admiration, du respect, de l'amitié. Mais il ajoutait que Clérambault était venu jeter le trouble dans ses rêves d'avenir par le rôle regrettable qu'il avait cru devoir prendre dans le drame où se jouait la vie de la patrie et par le retentissement que sa voix avait eu. Ces paroles, sans doute mal comprises, mais à coup sûr imprudentes, avaient revêtu un caractère sacrilège qui soulevait l'opinion. Parmi les officiers du front, comme chez ses amis à l'arrière, l'indignation était unanime. Ses parents, qui connaissaient le rêve de bonheur qu'il avait formé, y mettaient leur veto. Et, quelle que fût sa peine, il ne se croyait pas le droit de passer outre à des scrupules qui avaient leur source dans une piété profonde envers la patrie blessée. L'opinion ne pourrait concevoir qu'un officier qui avait l'honneur d'offrir son sang pour la France songeât à une union qu'on eût interprétée comme une adhésion à des principes funestes. Elle aurait tort sans doute, mais il faut compter toujours avec l'opinion. L'opinion d'un peuple, même excessive et injuste en apparence, est respectable. Et c'était l'erreur de Clérambault de l'avoir voulu braver. Daniel pressait Clérambault de reconnaître cette erreur et de la désavouer, d'effacer par de nouveaux articles l'impression déplorable produite par les premiers. Il lui en faisait un devoir envers la patrie, un devoir envers lui-même et, il laissait entendre, un devoir envers celle qui leur était à tous deux si chère. Sa lettre se terminait par diverses autres considérations où revenait deux ou trois fois encore le nom de l'opinion. Elle finissait par prendre la place de la raison et même de la conscience. Clérambault songea en souriant à la scène de Spitteler où le roi Épiméthée, l'homme à la ferme conscience, quand l'heure est venue de l'exposer à l'épreuve, ne peut plus mettre la main dessus. La voix qui décampe la poursuit et, pour la rattraper, se jetant à plat ventre, la cherche sous son lit. Et Clérambault pensa qu'on pouvait être un héros devant le feu de l'ennemi et un tout petit garçon devant l'opinion de ses compatriotes. Il montra la lettre à Rosine. Si partial que soit l'amour, elle fut blessée dans son cœur de la violence que son ami voulait faire aux convictions de son père. Elle pensa que Daniel ne l'aimait pas assez, et elle dit qu'elle ne l'aimait pas assez pour accepter de pareilles exigences. Quand bien même Clérambault serait disposé à céder, elle ne le permettrait pas, car ce serait injuste. Sur quoi, embrassant son père, elle affecta bravement de rire et d'oublier sa cruelle déconvenue. Mais on n'oublie pas le bonheur entrevu, tant qu'il reste la plus faible chance de le retrouver. Elle y pensa toujours, et même, après quelque temps, Clérambault sentit qu'elle s'éloignait de lui. Qui a l'abnégation de se sacrifier ? A rarement celle de n'en pas garder rancune aux êtres pour qui il se sacrifie. Rosine, malgré elle, en voulait à son père de son bonheur perdu. phénomène bizarre se produisait dans l'esprit de Clérambeau. Il était atterré et, en même temps, affermi. Il souffrait d'avoir parlé. Il sentait qu'il allait de nouveau parler. Il ne s'appartenait plus. Son écrit le tenait, son écrit l'obligeait. À peine sa pensée était-elle publiée qu'il était lié par elle. L'œuvre jaillit du cœur, rejaillit sur le cœur. Elle est née à une heure d'exaltation de l'esprit. Cette heure, elle la prolonge et la reproduit dans l'esprit qui, sans elle, retomberait épuisé. Elle est le jet de lumière qui vient des profondeurs. Elle est le meilleur de soi et le plus éternel. Elle entraîne le reste de la bête. L'homme, bon gré, mal gré, marche, appuyé sur ses œuvres et remorqué par elles. Elles vivent en dehors de lui, elles lui rendent sa vigueur perdue, lui rappellent son devoir, le guident et lui commandent. Clérambeau voulait se taire et il réitéra. Il n'en menait pas large. « Tu trembles, carcasse, car tu sais où je vais te traîner, » disait Turenne à son corps avant la bataille. La carcasse de Clérambeau ne faisait pas plus fière mine. Pour être beaucoup plus humble, la bataille où il la menait n'en était que plus rude, car il s'y trouvait seul et sans armée. Le spectacle qu'il s'offrait à lui-même en cette veillée d'armes était humiliant. Il se voyait à nu dans sa médiocrité. Un pauvre homme timide de nature, un peu lâche, ayant besoin des autres, de leur affection, de leur approbation. Il lui était affreusement pénible de rompre avec eux ses liens, d'aller tête baissée au-devant de leur haine. Serait-il assez fort pour résister? Et les doutes, dispersés, revenaient à l'assaut. Qui le forçait à parler? Qui l'entendrait? À quoi cela servirait-il? N'avait-il pas l'exemple des plus sages qui se taisaient? Et cependant, son cerveau résolu continuait de lui dicter ce qu'il devait écrire, et sa main l'écrivait sans atténuer un mot. Il était comme deux hommes, l'un prostré, qui avait peur et criait « Je ne veux pas aller me battre !» L'autre qui, dédaigneux de convaincre le lâche, le traînait par le collet et disait « Tu iras !» Ce serait toutefois lui faire trop d'honneur que penser qu'il agissait ainsi par courage. Il agissait ainsi parce qu'il ne pouvait pas autrement. Quand même il eût voulu s'arrêter, il lui fallait marcher, parler. C'est ta mission. Il ne comprenait pas. Il se demandait pourquoi c'était lui justement qui avait été choisi. Lui, poète de tendresse, fait pour une vie calme, sans lutte, sans sacrifice, tandis que d'autres hommes, vigoureux, aguerris, taillés pour le combat, ayant l'âme d'athlète, restaient inemployés. Inutile de discuter. Obéis, c'est ainsi. La dualité même de sa nature le contraignait, une fois que s'imposait la plus forte des deux âmes, à se remettre à elle, tout entier. Un homme plus normal n'eût pas manqué de fondre les deux natures, ou bien de les combiner, de trouver un compromis qui satisfît ensemble les exigences de l'une et la prudence de l'autre. Mais chez un Clérambeau, c'est tout l'un ou tout l'autre. Que la route lui plût ou non, une fois qu'elle était choisie, il la suivait tout droit. Et, pour les mêmes raisons qui lui avaient naguère fait croire absolument à ce que tout le monde autour de lui croyait, il devait se montrer sans aucun ménagement, dès qu'il eut commencé de voir les mensonges qui l'abusaient. Ceux qui en étaient moins dupes ne les eussent pas démasqués. Ainsi, le téméraire malgré lui engagea, comme Oedipe, la lutte avec le sphinx de la patrie, qui l'attendait au carrefour. L'attaque de Berlin attira sur Clérambeau l'attention de quelques hommes politiques d'extrême gauche, qui ne savaient trop comment concilier leur opposition au gouvernement, leur raison d'être, avec l'union sacrée, consentie contre l'invasion ennemie. Ils reproduisirent les deux premiers articles de Clérambeau dans un de ces journaux socialistes, dont la pensée d'alors clapotait dans les contradictions. On y combattait la guerre en votant les crédits. D'éloquentes affirmations internationales y coudoyaient le prône de ministres qui faisaient une politique nationaliste. Dans ce jeu de bascule, les pages de Clérambeau, d'un lyrisme vague où l'attaque était mesurée et où la critique de l'idée de patrie s'enveloppait de piété, eussent gardé le caractère anodin d'une protestation platonique si la censure n'en avait rongé les phrases avec une ténacité de termite. La trace de ses dents désignait au regard ce que la distraction générale eût laissé échapper. C'est ainsi que, dans l'article « À celle qu'on a aimée », après avoir conservé le mot « patrie » quand il paraissait, pour la première fois, accolée à une invocation d'amour, elle l'est chopée dans le reste du morceau, où il était l'objet d'appréciations moins flatteuses. Sa niaiserie ne voyait pas que le mot, gauchement recouvert par l'été noir, n'en luisait que mieux dans l'esprit du lecteur. Ainsi, elle contribua à donner quelque importance à un écrit qui en avait fort peu. Il faut ajouter qu'à cette heure de passivité universelle, la moindre parole de libre humanité prenait une ampleur extraordinaire, surtout quand elle portait un nom réputé. Le « pardon » demandé aux morts, plus encore que l'autre article, était ou pouvait être, par son douloureux accent, contagieux à la masse des cœurs simples que la guerre déchirait. Aux premiers indices qu'il en eut, le pouvoir, jusqu'alors indifférent, tâcha de couper court à la publicité. Assez avisé pour ne pas signaler Clérambeau par une mesure de rigueur, il sut agir sur le journal, par les intelligences qu'il s'était ménagées dans la place. Une opposition contre l'écrivain se manifesta, au sein du journal même. Il n'allait pas, naturellement, lui reprocher l'internationalisme de sa pensée. Ils le traitèrent de sensiblerie bourgeoise. Clérambeau vint leur fournir des arguments, en apportant un troisième article où son aversion de toute violence semblait incidemment condamner la révolution comme la guerre. Les poètes sont toujours de mauvais politiques. C'était une réplique indignée à l'appel aux morts que ululait Barrès, chouette grelottante, perchée sur un cyprès de cimetière. L'appel aux vivants. La mort règne sur le monde. Vivant, secouez son joug. Il ne lui suffit pas d'anéantir les peuples. Elle veut qu'ils la glorifient, qu'ils y courent en chantant. Et leurs maîtres exigent qu'ils célèbrent leurs propres sacrifices. C'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Ils mentent, vivent la vie, seule la vie est sainte. Et l'amour de la vie est la première vertu. Mais les hommes d'aujourd'hui ne la possèdent plus. Cette guerre le démontre, et déjà, depuis 15 ans, chez beaucoup, avouez-le, le monstrueux espoir de ces bouleversements. Vous n'aimez pas la vie, vous qui n'en voyez pas d'emploi meilleur à faire que de la jeter en pâture à la mort. Votre vie vous est à charge, à vous, riches bourgeois, serviteurs du passé, conservateurs qui boudent, par manque d'appétit, par dyspepsie morale, âme et bouche pâteuse, amère par ennui. Et à vous, prolétaires, pauvres et malheureux, par découragement du lot qui vous est attribué. dans la médiocrité maussade de votre vie, dans le peu d'espérance de la transformer jamais, homme de peu de foi, vous n'aspirez qu'à en sortir par un acte de violence qui vous soulève au-dessus du marécage, l'espace d'une minute au moins, la dernière. Les plus forts, ceux de vous qui ont le mieux conservé l'énergie des instincts primitifs, anarchistes ou révolutionnaires, font appel à eux seuls pour accomplir cet acte qui les libère. Mais la masse du peuple est trop lasse pour prendre l'initiative. C'est pourquoi elle accueille avec avidité la puissante lame de fond qui remue les patries, la guerre. Elle s'y abandonne avec une sombre volupté. C'est le seul instant de leur vie où ces pâles existences sentent passer en elles le souffle de l'infini. Et cet instant est celui de l'anéantissement. Ah, le bel emploi de la vie, n'être capable de l'affirmer qu'en la niant, au profit de quel dieu carnassier ? Patrie, révolution, qui fait claquer ses mâchoires sur les os des millions d'hommes. Mourir, détruire, la glorieuse affaire, c'est vivre qu'il faudrait, et vous ne le savez pas. Vous n'en êtes pas digne. Jamais vous n'avez goûté la bénédiction de la minute vivante, de la joie qui circule dans la lumière. Âmes moribondes qui veulent que tout meure avec elles, frères malades à qui nous tendons la main pour les sauver et qui nous tirent à eux, rageusement dans l'abîme. Mais ce n'est pas à vous, malheureux, que j'en ai, c'est à vos maîtres. Vous, les maîtres de l'heure, nos maîtres intellectuels, nos maîtres politiques, maîtres de l'or, du fer, du sang et de la pensée. Vous qui tenez ces États, vous qui remuez ces armées, vous qui avez façonné ces générations par vos journaux, vos livres, vos écoles, vos églises, et qui, de ces âmes libres, avez fait des troupeaux. Toute leur éducation, votre œuvre d'asservissement, éducation laïque, éducation chrétienne, exalte également, avec une joie malsaine, le néant de la gloire militaire et de la béatitude. Et le temps, au bout de la ligne de l'Église ou de l'État, la mort comme un appât. Scribes et pharisiens, hypocrites, malheur à vous. Politiciens et prêtres, artistes, écrivains, coryphées de la mort, vous êtes pleins au-dedans d'ossements et de pourriture. Ah, vous êtes bien les fils de ceux qui tuèrent le Christ. Comme eux, vous écrasez les épaules des hommes de fardeaux monstrueux que vous ne remueriez pas seulement du bout du doigt. Comme eux, vous crucifiez. Et ceux qui veulent aider les peuples infortunés, ceux qui viennent parmi vous, portant dans leurs mains la paix bénie, vous les emprisonnez et vous les outragez. Et, comme dit l'Écriture, vous les pourchasserez de cité en cité, jusqu'à ce que tout le sang répandu sur la terre retombe en pluie sur vous. Pourvoyeurs de la mort, vous ne travaillez que pour elle. Vos patries ne sont faites que pour asservir l'avenir au passé et ligoter aux morts pourrissants les vivants. Vous condamnez la vie nouvelle à perpétuer peureusement les rites vides des tombeaux. Ressuscitons, sonnons les Pâques des vivants. Hommes, il n'est pas vrai que vous soyez les esclaves des morts et par eux enchaînés comme les cerfs à la terre. Laissez les morts enterrer les morts et s'enterrer avec eux. Vous êtes fils des vivants et à votre tour vivants. Frères jeunes et saints, brisez la torpeur neurasthénique, secouée d'accès de frénésie qui pèse sur les âmes asservies aux patries du passé. Soyez maîtres du jour et maîtres du passé, pères et fils de vos œuvres. Soyez libres, chacun de vous est l'homme, non pas la chair gâtée qui pue dans les tombeaux, mais le feu crépitant de vie qui lave la pourriture, qui dévore les cadavres des siècles gisants. Et toujours feu nouveau, jeune feu, ceint la terre de ses bras brûlants. Soyez libres, ô vainqueur de la Bastille, vous n'avez pas encore conquis celle qui est en vous, la fausse fatalité, combattit pour vous emprisonner tous ceux depuis des siècles qui, esclaves ou tyrans, ils sont de la même chiourme, ont peur que vous preniez conscience de votre liberté. L'ombre massive du passé, religion, race, patrie, science matérialiste, couvre votre soleil. Marchez à sa rencontre, la liberté est là, derrière ses remparts et ses tours de préjugés, de lois mortes, de mensonges sacrés, que gardent les intérêts de quelques augures, l'opinion des masses enrégimentées et vos doutes en vous. Osez vouloir. Et soudain, derrière les murs du faux destin écroulé, vous reverrez le soleil et l'horizon illimité. Au lieu d'être sensible à la flamme révolutionnaire de cet appel, le comité du journal ne s'attacha qu'aux 3 ou 4 lignes où Clérambeau semblait mettre dans le même sac les violences de toute mouture, celles de gauche comme de droite. À quel titre ce poète venait-il, dans un journal du parti, donner des leçons aux socialistes? Au nom de quelle doctrine? Était-il seulement socialiste? Qu'on renvoie à la bourgeoisie ce bourgeois tolstoïen et anarchiste avec ses exercices de style. Vainement, quelques esprits plus larges protestèrent qu'avec ou sans étiquette, une pensée libre devait être accueillie, et que celle de Clérambeau, si ignorante qu'elle fût de la doctrine, était plus vraiment socialiste que celle de socialistes associés à l'œuvre de tuerie nationale. On passa outre, et l'article de Clérambeau lui fut, après avoir dormi quelques semaines au fond d'un tiroir, rendu, sous prétexte que l'actualité était exigeante et qu'on avait trop de copies. Clérambeau porta l'article à une petite revue, plus attiré par son renom littéraire que par ses idées. Le résultat fut que la revue fut fauchée, suspendue par arrêté de police, le lendemain de l'apparition de l'article, blanchie pourtant jusqu'à la corde. Clérambeau s'entêta. Il n'est pire révolté que, si on les y force, ceux qui ont été soumis toute leur vie. J'ai souvenir d'avoir vu, une fois, un grand mouton qui, harcelé par un chien, finit par foncer sur lui. Et le chien, atterré par ce renversement inattendu des lois de la nature, s'enfuit en aboyant de stupeur et de peur. Le chien état est trop sûr de ses crocs pour s'inquiéter de quelques moutons révoltés. Mais le mouton Clérambeau ne mesurait plus l'obstacle. Il donnait de la tête à tort et à travers. Le propre des cœurs faibles et généreux est de passer sans transition d'une exagération à l'autre. De l'excès du sentiment grégaire, Clérambeau avait sauté, d'un bond, à l'excès de l'individualisme isolé. Parce qu'il le connaissait bien, il ne voyait plus partout que le fléau de l'obéissance, cette suggestion sociale dont les effets s'étalaient dans tous les milieux. Passivité héroïque des armées qu'on exalte jusqu'à la frénésie, comme les millions de fourmis enclavées dans le gros de la tribu. Servilité moutonnière des assemblées, qui, tout en méprisant un chef de gouvernement, le soutiennent de leur vote jusqu'au hasard d'une explosion provoquée par la révolte d'un seul. Soumission maussade, mais enrégimentée, des partis mêmes de liberté, sacrifiant à l'idole absurde de l'unité abstraite jusqu'à leur raison de vivre. Cette passion d'abdiquer était pour lui l'ennemi, et sa tâche lui sembla, en réveillant le doute, l'esprit qui ronge les chaînes, de rompre, s'il pouvait, la grande suggestion. Thank you. le foyer du mal était l'idée de nation. On ne pouvait toucher à ce point envenimé sans faire hurler la bête. Clérambault l'attaqua sans ménagement. Qu'ai-je à faire de vos nations? Vous me demandez d'aimer, de haïr des nations? J'aime ou je hais des hommes. Il en est dans chaque nation de nobles, de vils, de médiocres. Et dans chaque nation, les nobles et les vils sont peu, et les médiocres sont foule. J'aime ou je n'aime point un homme pour ce qu'il est, et non pour ce que sont les autres. Et n'y eût-il qu'un seul homme que j'aime dans une nation, cela me suffirait pour ne pas la condamner. Vous me parlez de lutte et de haine de race. Les races sont les couleurs du prisme de la vie. C'est leur faisceau qui fait la lumière. Malheur à qui le brise. Je ne suis pas d'une race. J'appartiens à la vie tout entière. Dans toutes les nations, alliés ou ennemis, j'ai des frères, et les plus proches ne sont pas toujours ceux que vous prétendez m'imposer comme compatriotes. Les familles des hommes sont dispersées à travers le monde. Reformons-les. Notre tâche est de détruire les nations chaotiques et de tresser à leur place des groupes harmonieux. Rien ne l'empêchera. Les persécutions mêmes forgeront sur la souffrance commune la commune affection des peuples torturés. D'autres fois, sans nier l'idée de nation, et même en admettant les nations comme un fait naturel, car ils ne se piquaient pas de logique et cherchaient seulement à atteindre l'idole, à tous les défauts de la cuirasse, il affirmait brutalement son détachement de leur rivalité. Cette attitude n'était pas la moins dangereuse. Je ne puis m'intéresser aux querelles de suprématie entre vos nations. Il m'est indifférent que triomphe sur le ring telle ou telle couleur. Quel que soit le gagnant, c'est l'humanité qui gagne. Il est juste que le peuple le plus vivant, le plus intelligent et le plus travailleur l'emporte dans les luttes pacifiques du travail. Le monstrueux serait que les concurrents évincés, ou sur le point de l'être, eussent recours à la violence pour l'éliminer du marché. Ce serait sacrifier les intérêts de tous les hommes à ceux d'une raison commerciale. La patrie n'est pas une raison commerciale. Il est certes fâcheux que la hausse des uns fasse la baisse des autres. Mais quand le grand commerce de mon pays ruine le petit commerce de mon pays, vous ne dites pas que c'est un crime de lèse-patrie. Et pourtant, cette lutte fait des ruines plus tristes et plus imméritées. Tout le système actuel d'économie du monde est funeste et vicieux. Il faut y remédier. Mais la guerre, qui cherche à escroquer le concurrent plus habile ou plus heureux, au profit du plus maladroit ou du plus paresseux, ne fait qu'empirer le vice du système. Elle enrichit quelques-uns et ruine la communauté. Tous les peuples ne peuvent, sur la même route, marcher du même pas. À tour de rôle, les uns dépassent les autres et sont dépassés à leur tour. Qu'importe s'ils ne forment qu'une même colonne. Point de saut amour-propre. Le pôle de l'énergie du monde se déplace constamment. Dans un même pays, il a souvent changé. De la Provence romaine, il a passé en France à la Loire des Valois. Il est maintenant à Paris. Il n'y restera pas toujours. La terre tout entière obéit à un rythme alterné de printemps fécond et d'automne qui s'endort. Les voies commerciales ne demeurent pas immuables. Les richesses du sous-sol ne sont pas inépuisables. Un peuple qui sait, pendant des siècles, des pensées sans compter, s'achemine, par sa gloire, à son déclin. Il ne subsistera qu'en renonçant à la pureté de son sang et le mêlant aux autres. Il est vain, il est criminel, de prétendre prolonger sa maturité passée en empêchant celle des autres. Tels nos vieillards d'aujourd'hui qui envoient les jeunes hommes à la mort. Cela ne les rend pas plus jeunes et ils tuent l'avenir. Au lieu de s'enrager contre les lois de la vie, un peuple saint cherche à comprendre ces lois. Il voit son vrai progrès, non dans une volonté stupide qui s'entête à ne pas vieillir, mais dans un effort constant pour progresser avec l'âge, devenir autre et plus grand. À chaque âge, sa tâche. S'agripper toute sa vie à la même, ses paresses et faiblesses. Apprenez à changer. Le changement, c'est la vie. L'usine de l'humanité a du travail pour tous. Peuple, travaillons tous, et que chacun soit fier du travail de tous. La peine, le génie de tous les autres sont nôtres. Ces articles paraissaient de ci, de là, quand ils pouvaient, dans quelques petites feuilles d'avant-garde, anarchistes et littéraires, où les violences contre les personnes dispensaient d'un combat raisonné contre le régime. Ils étaient à peu près illisibles, hachés par la censure, qui, d'ailleurs, quand l'article était reproduit dans un autre journal, laissait passer, avec un oubli capricieux, ce que la veille elle avait haché, et haché ce qu'elle avait laissé passer. Pour en démêler le sens, il fallait s'appliquer. L'étonnant, c'était qu'à défaut des amis, les adversaires de Clérambeau s'appliquaient. D'ordinaire, à Paris, les bourrasques durent peu. Les pires ennemis, rompus à la guerre de plumes, savaient très bien que le silence étouffe mieux que l'injure et font taire leur animosité pour plus sûrement l'exercer. Mais dans la crise d'hystérie qui tordait les âmes d'Europe, il n'était plus de boussole, même pour la haine. La violence des attaques d'Octave Bertin venait à tout moment rappeler Clérambeau au public. Il avait beau dire dédaigneusement aux autres, « N'en parlons plus !» Il le disait à la fin de chaque article où il venait de décharger sa bile. Il était trop bien au courant de toutes les faiblesses intimes, de tous les défauts d'esprit, des petits ridicules dans l'ancien ami. Il ne résistait pas au plaisir de les toucher d'une flèche sûre. Et Clérambeau, atteint au vif, pas assez sage pour ne pas le montrer, se laissait entraîner dans le combat, riposter et prouver qu'il pouvait, lui aussi, blesser l'autre jusqu'au sang. Une inimitié ardente se déchaîna entre eux. Le résultat était à prévoir. Jusque-là, Clérambeau avait été inoffensif. Il se bornait, somme toute, aux dissertations morales. Sa polémique ne sortait pas du cercle des idées. Elle eût pu aussi bien s'appliquer à l'Allemagne, à l'Angleterre ou à la Rome antique qu'à la France d'aujourd'hui. Pour dire la vérité, il ignorait les faits politiques à propos desquels il déclamait, comme les 9/10 des hommes de sa classe et de sa profession. Aussi sa musique ne pouvait guère troubler les maîtres du jour. La bruyante passe d'armes de Clérambeau avec Bertin, au milieu du charivari de la presse, eut une double conséquence. D'une part, elle habitua Clérambeau dans son escrime à un jeu plus précis. Elle l'obligea à se tenir sur un terrain moins creux que celui des logomachies. De l'autre, elle le mit en rapport avec des hommes qui, mieux au courant des faits, lui fournirent une documentation. Depuis peu, s'était formée en France une petite société, à demi clandestine, de recherche indépendante et de libre critique sur la guerre et les causes qui l'avaient amenée. L'État, si vigilant à écraser toute tentative de pensée libre, avait jugé sans danger ces hommes sages, tranquilles, hommes d'études avant tout, qui ne cherchaient pas l'éclat et se contentaient de discussions privées. Il avait cru plus politique, tout en les surveillant, de les enfermer entre quatre murs. Il se trompait dans ses calculs. La vérité, modestement, laborieusement trouvée, ne fut-elle d'abord connue que de 5 ou 6, ne peut plus être déracinée. Elle monte de terre avec une force irrésistible. Clérambeau apprit, pour la première fois, l'existence de ces chercheurs passionnés de vérité qui rappelaient ceux des temps de l'affaire Dreyfus. Leur apostolat à huis clos prenait, dans l'oppression générale, je ne sais quelle apparence de petite société chrétienne des catacombes. Grâce à eux, il découvrit, à côté des injustices, les mensonges de la Grande Guerre. Il en avait jusque-là un faible pressentiment. Mais il ne soupçonnait pas à quel point l'histoire qui nous touche de plus près avait été falsifiée. Il en fut suffoqué. Même à ses heures de plus sévère examen, sa naïveté n'avait jamais imaginé les trompeuses assises sur lesquelles repose une croisade du droit. Et, comme il n'était pas homme à garder pour lui sa découverte, il la cria dans des articles que la censure interdit, puis sous forme satirique, ironique, symbolique, dans de petits récits, des apologues voltairiens, qui passaient quelquefois par l'inattention du censeur, et qui désignèrent Clérambeau au pouvoir comme un homme décidément dangereux. Ceux qui croyaient le connaître se trouvaient bien surpris. Il était traité couramment de sentimental par ses adversaires. Et certes, il l'était. Mais il le savait, et, parce qu'il était français, il avait la faculté d'en rire, de se railler. Bon pour les sentimentaux d'Allemagne de croire opaquement en eux. Au fond d'un Clérambeau éloquent et sensible, le regard du Gaulois, toujours sur le qui-vive au cœur de ces grands bois, observe, ne perd rien et de tout est prêt à rire. Le plus surprenant est que ce fond émerge au moment où l'on l'attend le moins, dans la plus dure épreuve et le danger pressant. Le sens du ridicule universel venait tonifier Clérambeau. Son caractère prenait soudain une complexité vivante, à peine s'était-il dégagé des conventions où il était enroulé. Bon, tendre, combatif, irritable, dépassant la mesure et le reconnaissant, et la passant de plus belle, larmoyant, ironique, sceptique et croyant, il s'étonnait lui-même en se voyant dans le miroir de ce qu'il écrivait. Toute sa vie, sagement, bourgeoisement renfermé en lui, faisait irruption, développé par la solitude morale et l'hygiène de l'action. Et Clérambeau s'aperçut qu'il ne se connaissait pas. Il était comme René depuis la nuit d'angoisse. Il apprit à goûter une espèce de joie dont il n'avait pas idée. La joie vertigineuse et détachée de l'homme libre dans le combat. Tous ses sens ajustés, comme un arc bien tendu et jouissant de ce parfait bien-être.